Ah, enfin, le retour d'Irit Azoulay avec une chanson, une histoire. Bonjour Irit.
Bonjour Didier.
Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien, c'est un jour, je ne vais pas dire en quoi ce jour est différent des autres jours, puisqu'on approche
c'est
de Pessah.
C'est le cas de le dire.
Bien sûr. Et donc aujourd'hui, on fête notre le premier anniversaire d'une chanson, une histoire, car la première fois que nous nous sommes rencontrés dans ce studio, eh bien, vous nous aviez raconté, pour mémoire, l'histoire des quatre frères en vue de Pessah 2023. Et voilà qu'on est déjà à la veille de Pessah 2024.
C'est vrai, hein? Ah non, on est un petit bébé depuis, depuis nos retrouvailles, Didier.
C'est vrai.
Et on, comme vous venez de me le dire, on ne s'est pas encore disputé une seule fois.
C'est vrai, hein? C'est merveilleux.
On
y a des couples comme ça.
On a un an de relation. Mais oui, à l'époque, donc, il y a un an tout juste, je vous ai raconté Arba'a Achim, les quatre frères de la Haggadah, qui était écrit par Naomi Shemer. Et bon, bah, voilà, maintenant, on a une nouvelle chanson.
Ah bah, heureusement, et on va sûrement rediffuser pendant la fête, je pense, votre enregistrement
Arba'a
d'il y a
Achim.
Un an,
ouais,
bien sûr.
Chouette, ouais.
Mais aujourd'hui, on va écouter l'histoire d'une autre chanson liée à Pessah, étonnamment, celle de Shlachna et Ami, en hébreu.
Mm-hmm.
Et
voilà oui.
D'abord à quoi ça ressemble avant que vous nous donniez toutes les explications.
Merci.
Combien de versions existent et quelle est la chanson la plus illustrative de Pessah que « Let my people go » ?
Voilà, bien vu. Mais en fait, bon, pour, en vue de notre premier anniversaire, c'est la première fois que je vais vous raconter l'histoire d'une chanson qui n'est pas originellement en hébreu. Quoique, ben, comme vous le dites, il s'agit de la version hébraïque de « Let my people go », qui s'appelle aussi « Go down, Moses », et qui est un spirituel afro-américain composé au 19e siècle par les esclaves noirs des États-Unis. Ah oui, en fait, la chanson elle-même est en anglais à l'origine, mais les paroles principales proviennent bien sûr de la Bible, du livre de l'Exode, où Dieu envoie Moïse chez le pharaon d'Égypte pour lui demander de libérer le peuple d'Israël tenu par le pharaon en esclavage. Shlachna et Ami est donc l'adaptation hébraïque de ce gospel, écrite par Ephraim Dror en 1950, alors que les États-Unis pratiquaient encore la ségrégation, ce qu'ils appellent de jure, c'est-à-dire par la loi. Comme vous le savez, Didier, l'esclavage fut aboli aux États-Unis en 1865, officiellement, mais jusqu'en 1965, pendant encore un siècle, les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir près des Blancs dans les autobus, ni de fréquenter les écoles, les théâtres, les parcs, etc. C'est ce qu'on appelait la ségrégation de jure. Et tout comme la plupart des chants négro-spirituels, cette chanson parle de liberté, faisant référence à la fois à la liberté des esclaves hébreux en Égypte et à celle des esclaves noirs d'Amérique. Ce texte provient du livre de l'Exode, où Dieu dit à Moïse « Et maintenant, va, car je t'envoie auprès de Pharaon, et puis fais-le sortir, mon peuple d'Égypte. » En hébreu, ça donne « Ve'atin, ata avec ein, maintenant, lecha, ve'eshlachecha el paro, ve'hotse et ami bnei Israël mimitzraim. » Dieu utilisera plusieurs fois les verbes « lalechet » comme dans « lech lecha »,« lecha »,« lech » et « lishloach »,« envoyer »,« eshlachecha »,« anishlachotra ». Il lui dit à Moïse, à l'impératif, Eshlachecha et Lecha, c'est-à-dire fais-le, c'est des ordres, ce qui veut dire je t'envoie chez le pharaon avec une mission précise afin de que tu fasses sortir mon peuple d'Égypte, Vehotse et Ami Mitzrayim. En fait, ce verbe sera utilisé très souvent dans ce sens. Et encore aujourd'hui, les diplomates israéliens et toutes les personnes qui vont dans des pays autres qu'en Israël pour accomplir une mission seront appelés des shlichim, shaliach, comme pour les mouvements de jeunesse, comme pour beaucoup d'autres, des envoyés. Et même que le rabbin de Lubavitch va envoyer ses disciples de par le monde pour enseigner et réaliser de bonnes actions. Et cette coutume s'est développée avec les années. Et de nos jours, il y a des shluchim, en yiddish ils disent shluchim pour les shlichim, de Chabad. On les trouve un peu dans tous les coins du monde, n'est-ce
Absolument.
Pas
Absolument, même chez nous, à Bruxelles.
Ben oui, bien sûr. Et ils font du bon boulot d'ailleurs.
Exactement, on les salue.
On les salue et on les remercie. Et par ailleurs, Dieu va employer aussi le verbe « laredet », descendre, qui dit « go down, Moses », descend, Moïse. Parce que, pourquoi descendre? D'où il descend, en fait? Moïse va monter et descendre de la montagne. Il s'agit probablement du mont Sinaï pour aller à la rencontre de Dieu quand il a vu le buisson ardent. Et après, il va revenir, il va remonter pour les tables de la loi une fois, deux fois, trois fois. Il y aura tout le temps des montées et des descentes. Et par ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse. La loi de Moïse, puisqu'on parle des tables de la loi, la loi de Moïse ne faisait aucune distinction entre blanc et noir, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'épouse de Moïse, Tzipora, était de peau noire. Il est écrit « Isha kushit lakach » et il prit une femme africaine. Bon, pour fermer la parenthèse, je reviens vers le verbe « descendre ». Lorsqu'on est dans le Sinaï ou en Canaan, on se trouve au nord de l'Égypte. Et donc, on doit descendre pour aller en Égypte. Dieu dit à Moïse, et puis après, « Je descendrai ». Donc, Dieu va descendre du ciel pour délivrer mon peuple. « Je descendrai pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un pays où coule le lait et le miel ». De nos jours encore, on considère qu'on monte vers Israël. On fait la « aliyah ». On devient des olim. Peu importe d'où on vient finalement, c'est devenu symbolique de considérer qu'on monte vers la terre promise. Dans le contexte de l'esclavage américain, les esclaves noirs risquaient leur vie en fuyant le sud des États-Unis, où l'institution de l'esclavage était principalement établie. Ils traversaient donc des montagnes et des rivières, notamment le fleuve du Mississippi, qu'ils devaient remonter vers le nord dans l'espoir d'atteindre les États libres. Pour se donner du courage, lorsque les esclaves noirs franchissaient une montagne, ils pensaient à Moïse sur le mont Sinaï. Et lorsqu'ils traversaient le Mississippi, ils pensaient à l'ouverture de la mer Rouge.
Ah bah dites-moi, moi je suis suspendu à vos lèvres, c'est extrêmement intéressant. Par contre, j'ai l'habitude que dans le titre, vous mentionniez l'auteur de la chanson ici. Vous n'en avez pas encore parlé.
Tiens, ben c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'auteur à cette chanson. En fait, ils sont inconnus, c'est des Noirs. Ben oui, il y en a, mais on ne sait pas. C'était des Noirs africains, afro-américains qui travaillaient, des esclaves, donc, qui ont composé ça.
Il n'y avait pas encore de droit d'auteur à l'époque.
Ah ben voilà. mais il n'empêche, certains attribuent l'écriture de ce chant à une certaine Harriet Tubman, qui était une militante américaine qui se battait pour l'abolition de l'esclavage. Elle-même était esclave depuis l'âge de 5 ans. Elle réussit à s'enfuir et puis elle va consacrer sa vie à aider de nombreux esclaves à s'évader. Les esclaves avaient coutume de chanter, n'est-ce pas, en travaillant dans les champs de coton, d'une part pour se remonter le moral et d'autre part, c'était un moyen de passer des messages les uns aux autres. Et Harriet Tubman utilisait cette chanson « Go Down Moses » comme l'une des chansons codées pour communiquer avec les esclaves fugitifs. Et d'ailleurs, on l'a surnommée « Grandma Moses », « Mamie Moïse ».
C'est joli comme surnom. Je comprends un peu mieux donc le parallèle entre l'esclavage des Noirs en Amérique et celui des Hébreux en Égypte, mais par contre, je ne comprends pas d'où vient la connexion de ces Africains à la Bible alors qu'ils étaient animistes. À ma connaissance.
Bien sûr, votre réflexion est pertinente. Il est vrai que la plupart de ces Noirs d'Amérique sont à la base des animistes, des païens, qui vont se frotter au christianisme lorsqu'ils deviennent esclaves en Amérique. Et puis, les propriétaires de plantations, bien, même s'ils considéraient l'esclave noir comme un objet, ils répandaient l'idée que les maîtres se devaient d'éduquer leurs esclaves. Les éduquer, oui, mais selon les valeurs chrétiennes, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Pour Pourquoi ? En fait, il y avait une réelle raison là-dedans et là-derrière, pour avoir une meilleure emprise sur les esclaves. Il fallait en faire des esclaves fidèles à leur maître, en utilisant la parole divine, n'est-ce pas ? Mais en fait, la religion a presque toujours été utilisée
comme celle-là.
Voilà, absolument. Pour avoir de l'emprise sur les citoyens. Et lorsque les esclaves et leurs propriétaires se réunissaient dans l'église pour écouter l'évangile de la fraternité du Christ, une partie considérable des écrits était censurée, veillant à ce que le clergé ne prêche que la loyauté au maître, n'est-ce pas ? Étonnamment, les missionnaires chrétiens qui prônaient leurs croyances religieuses en la fraternité ne voyaient pas de faille dans le commerce des esclaves. Mais l'emprise des maîtres blancs sur leurs esclaves n'a pas porté ses fruits. Les esclaves noirs trouvent du réconfort précisément dans une autre voie, celle de la Bible juive, qu'ils appelaient l'Ancien Testament. L'histoire du peuple d'Israël en Égypte, qui a connu le travail acharné, la servitude, la faim, la souffrance et la flagellation, ça trouve une oreille attentive chez les esclaves noirs, qui s'identifient forcément avec les esclaves hébreux. Mais, comme on le sait, le plus important, c'est de pouvoir se projeter dans la tête, sans quoi on ne pourra jamais y arriver. Et alors, dans ce contexte, le récit biblique de l'exode des Bnei Israël d'Égypte permet aux Afro-Américains d'imaginer la possibilité de s'évader. Cela leur permet de croire que l'option de vivre en liberté existe et que c'est impossible.
Je le disais tout à l'heure, lorsqu'on écoutait la chanson, que « Let my people go » avait été reprise dans des tas de langues, et même en français.
Ah ah, oui, 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 absolument. Il s'agit de Armstrong, chanté par Claude Nougaro en 1965. Et les paroles originales du gospel s'inspirent de la Bible, mais la version française n'a rien d'une traduction. C'est un poème rédigé par Claude Nougaro en français sur la mélodie de Go Down Moses, interprétée par Louis Armstrong en 1958.
Et on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs à la fin de cette chronique.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans.
Hé, hey, oui. Eh bien, comme vous entendez, Nougaro va employer l'humour et le jeu de mots pour mieux rire des situations dramatiques. Il va tourner les préjugés racistes en dérision, commençant par « Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau, P-E-A-U ». Après, il va dire « Quel manque de peau, P-O-T ». Et donc, être blanc, c'est une revendication à une appartenance raciale qui est chère aux racistes. Nous sommes des blancs, genre nous sommes supérieurs. Mais Claude Nougaro va dire qu'il est blanc de peau, comme pour dire qu'il s'agit seulement de la teinte d'une enveloppe extérieure. Mais malgré cela, cette teinte blanche n'est pas sans conséquence, puisque quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau, pas de chance. Puis il va déclarer son athéisme, s'attaquant au texte biblique selon lequel Moïse monte sur le mont Sinaï car il aperçoit le buisson ardent duquel un ange lui adressera la parole. Et il va dire « Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien ne lui, ne lui » du verbe « luire » pour ceux qui n'ont pas bien entendu. « Rien ne lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau. » Donc il n'y a rien qui lui, il n'y a pas de buisson ardent, il n'y a pas d'ange, il n'y a rien de tout ça. Et ensuite, plus tard, bon, je passe, il y a beaucoup de... Les paroles en valent la peine,
Clairement.
Si vous avez le temps d'aller voir le texte et de réécouter toute la chanson, c'est magnifique. Et puis, il va crier la couleur qui unit l'espèce humaine, qui est le rouge. il dit quand qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge, sans trêve ni repos. Ça, c'est très beau aussi, les jeux de mots. Sans avec S-A-N-G et ensuite sans trêve S-A-N-S. Ni repos. Ah,
Claude Nougaro, c'était avant tout un poète, évidemment.
Mais oui, c'est magnifique. Les paroles en valent la peine. Et puis, il ne s'est pas annoncé pessimiste pour rien, car après une vie difficile vient la mort, forcément. Et là, il dit aussi quelque chose de très drôle. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs ? Ce serait rigolo. Et donc, il concède enfin à Louis Armstrong une victoire de l'optimisme par un habile jeu de sonorité. À la fin, il va crier « Alléluia, Alléluia ». Donc, « Alléluia » s'adressant à Louis Armstrong, suivi de « Alléluia » qui marque une sorte de « Alléluia » qui veut dire « glorifier l'Éternel » et qui marque comme l'entrée dans le royaume des cieux. Eh ben, malheureusement, notre temps est terminé, mais est-ce que ça sera à la fin de cette chanson qui représente symboliquement la fin de sa vie? Est-ce que Claude Nougaro, à ce moment-là, aurait eu peut-être une petite révélation divine?
On dit toujours qu'à l'approche de la mort, on redevient religieux, paraît-il. Moi, personnellement, j'en doute que Claude Nougaro ait eu cette révélation. On va donc s'écouter la version, je ne vais pas dire originale, puisqu'on
ne
sait pas
qui... Non, voilà, il n'y a pas de version originale. En fait,
la plus connue, je dirais, à part celle de Claude Nougaro, c'est celle de Louis Armstrong. Petit flashback, on est... Ouh là là, mon Dieu, on est 65 ans en arrière,
oui.
1958. Merci beaucoup, Irit.
Et Chag Sameach.
Chag Sameach. Vous avez bien nettoyé tout, vous avez enlevé tout le chametz.
Dans ma tête, en tout cas.
À très vite.
À bientôt.
Go down,
Moses,
where?